La femme est aussi un continent colonisé. Alors comment ? Alors quelle est la genèse de la domination masculine ? Parce qu'évidemment, si la femme est un continent colonisé, c'est bien par l'homme. Bonjour Thomas, Guillaume.
Bonjour, je suis l'homme alors, du coup, c'est ça ?
Tu es l'homme, voilà. Rien, tu écoutes.
Ça va.
Alors, donc, quelle est la genèse de la domination masculine et pourquoi les hommes ont voulu s'approprier les femmes, Valérie ?
C'est une excellente question à laquelle on va essayer de répondre. Et donc, moi, j'essaie de remonter aussi, ne fût-ce qu'au niveau de l'histoire, et donc, pour faire quand même un raccord par rapport au colonialisme, j'ai été voir aussi pourquoi les historiens du colonial, quand même des spécialistes de l'Afrique, de l'Asie ou des Amériques, sont encore peu nombreux à faire une place à la femme et au genre. Et en fait, parce que c'est toujours les mêmes les explications, c'est une occultation, en fait, de la femme. Elle n'existe pas, parce qu'en fait, on fabrique des héros, et donc, comme on fabrique des héros, ben, on exclut les femmes. Et donc, qui est le plus inconnu que le soldat inconnu ? Sa femme. Et on tourne toujours sur la même histoire, quoi. Pourtant, le mot histoire a deux sens. Il a le mot passé et le mot récit. Et donc, on est bien placé pour savoir que les femmes ont toujours été présentes dans ce qui s'est passé. Elles étaient là physiquement. Elles ont fait partie de cette histoire. Par contre, elles sont absentes du récit qu'on fait de l'histoire. Et donc, là, on n'entend que parler du masculin. Le féminin a complètement disparu, quoi. Et donc, pourquoi ? Comment ça s'est installé, toute cette histoire ? En fait, ça remonte à des millénaires, et donc c'est une domination universelle dans le temps et dans l'espace. Donc c'est pas apparu à un moment donné, c'est là, manifestement, en tout cas, les historiens cherchent et cherchent des traces, et c'est comme ça depuis le début des temps. Alors on se demande, mais quelle est la genèse, en fait, de cette domination masculine ? Pourquoi, comment ? Et donc, si on remonte déjà dans les sociétés archaïques, on se rend compte que c'est l'importance du ventre, de la femme, donc au sens premier, indispensable à la naissance des enfants. Et donc, la maternité et le sexe sont pour les hommes une source d'angoisse et de tension sociale, puisque c'est la reproduction et en même temps, ben, on assoit sa descendance. Et donc, on a un petit peu de bruit. Ça s'est installé donc de cette façon, avec l'installation du mariage, de l'importance de la famille. Et donc, on peut par exemple le voir dans le mariage pour tous. Ça a l'air un peu compliqué. Que même là, quand on met en place le mariage homo, il y a des levées de boucliers. Je parle ici en France, parce qu'en Belgique, ça s'est passé beaucoup plus facilement. Parce qu'effectivement, on met à mal toute cette conception-là, on fait exploser cette domination masculine sur, quelque part, la sexualité et le ventre de la femme, puisqu'on casse les valeurs ancestrales qui ont été, quelque part, ancrées via le mariage et l'importance de la famille, quoi. Quand on parle du droit à l'avortement et de la contraception, c'est pareil. Tous les combats se sont joués à ce niveau-là, quoi. Et donc, c'est ce qu'on appelle une valeur différentielle des sexes, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie des sexes. Donc, le masculin étant plus important que le féminin. Et donc, on peut prêter aux femmes un pouvoir domestique. Hein, donc, voilà, on gère des trucs, on gère la maison, etc. Mais en fait, ce pouvoir domestique ne fait que confirmer la domination masculine. Parce qu'il ne s'étend que sur un domaine bien limité, quoi. Et donc, vous allez me dire, mais oui, mais il a existé des sociétés matriarcales. Ben, j'ai envie de dire peut-être bien que oui, mais en fait, l'histoire commence à dire que certainement que non. Il n'y a pas eu de véritable... Oui, c'est ça, ça devient un peu le... Alors, ce qu'ils expliquent, en fait, c'est qu'il faut faire une distinction entre pouvoir et influence, et que donc les femmes peuvent avoir de l'influence, mais ont très rarement le pouvoir. Et que... Je me sens un peu... Qu'on pourrait avoir des sociétés qu'on estime matriarcales, mais en fait, c'est simplement parce que ce sont des sociétés où on reconnaît l'influence de la femme dans l'éducation des enfants, et donc des petits garçons aussi. Et donc, c'est une société où elle a de l'influence, mais parce qu'elle sert à éduquer et à installer la société, mais la domination masculine est toujours présente. Donc, c'est un petit peu la vie des anthropologues de maintenant. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, je fais un retour de la question, mais effectivement, il y a le mythe des Amazones, mais comme on dit, c'est un mythe. Mais il y a d'autres systèmes matriarcaux et apparemment, ils n'arrivent pas à prouver que réellement ça a existé, que ça a fonctionné, quoi. Sans une domination masculine derrière, qui trouvait toujours... Voilà, mais vas-y, hein, interviens par rapport à ça.
Moi, je pense qu'il y a eu des vraies sociétés. En tout cas, je parle pour les royaumes précoloniaux, donc en Afrique, qui a eu des vraies sociétés matriarcales et matrilinéaires. Et encore des traces, d'ailleurs, même dans, bien sûr, dans l'éducation, mais même dans l'héritage et la transmission des biens, du patrimoine, etc., qui se faisait de femme en femme. Ou alors qu'on s'appropriait l'enfant. Par exemple, un homme peut avoir un enfant. Un couple pouvait avoir un enfant et l'enfant appartenait à la famille de la mère, quoi qu'il arrive. Donc quoi qu'il arrive, qu'ils restent ensemble, qu'ils restent ensemble, ou prenez parfois même le nom de la mère. Donc je pense, bon après il faut que je fasse des recherches plus approfondies, mais je pense qu'il y a eu des vraies sociétés matriarcales, des vraies reines, des vrais chefs, des vraies guerrières comme Zinga, comme les Amazones du Dahomey et tout ça, qui sont reconnues comme des vrais des chefs de troupes, des chefs de royaume et des reines, oui. Donc peut-être que c'est encore des hommes qui essayent de saboter l'histoire à leur profit, mais non, je suis sûre. On va essayer de chercher, mais je suis sûre. Et même des sociétés où voilà, les femmes pouvaient avoir plusieurs amants sans que ça ne soit remis en cause. Des femmes qui géraient leur cheptel d'hommes sans que ça soit remis en cause aussi.
Mais ouais. Peut-être que justement la position des anthropologues, c'est nouveau une domination masculine,
oui,
en revisitant l'histoire.
Comme les archéologues.
Comme les archéologues du genre, ouais, voilà quoi. Donc c'est intéressant d'en parler quoi. Et donc moi je voulais aussi aborder la question de la violence exercée contre les femmes dans ces sociétés de domination masculine. Qu'on parle des sorcières brûlées parce qu'elles possédaient tout un savoir sur le corps féminin et une médecine et des traités médicaux aussi qui ont décrit le corps de la femme comme malsain. C'est aussi un discours d'homme sur le corps de la femme. Donc elle saigne, elle est impure, elle est voilà. Et donc tout ça c'est aussi
hystérique.
Voilà, exactement. Et on peut aussi parler du viol comme moyen de soumission. Le viol de guerre étant un bel exemple de la chose quand même. Hein, il faut pas non plus. Et pourtant, moi je reste quand même convaincue que la domination des hommes, on peut la combattre. On peut aussi y consentir. Certaines femmes y ont trouvé dans l'histoire en tout cas leur bonheur. Il y a des vraies histoires d'amour qui ont eu lieu. Et on peut même la justifier à certains moments, la domination masculine. Parce qu'en fait, on se rend compte que cette domination est tellement ancrée qu'ils n'ont même plus besoin de la justifier. Il y a toutes des générations de femmes qui consentaient, qui étaient consentantes par rapport à cette domination masculine. Donc il n'y en a même plus de remise en question, ce qui n'est pas le cas de maintenant. Hein.
Il y a une pétition qui a été signée par certaines actrices, dont Catherine Deneuve, justement, quand le mouvement MeToo est apparu.
Voilà.
Et voilà, ces femmes-là ont balayé...
C'est un peu la conclusion de ma chronique.
Anne Morelli.
Oui, mais voilà, elle s'en est vite détachée.
Ouais. Et donc, il n'y a pas de complot des hommes contre les femmes parce que c'est tellement ancestral, mais non, qu'il y a plusieurs millénaires qui édictent les conditions de cette espèce de cohabitation avec domination, quoi. Donc, à un moment donné, ils ne se sont pas dit « Allez, les gars, on va dominer les femmes, quoi. » Ça s'est installé depuis le début. Et donc, malgré le fait qu'on a obtenu des droits civils, économiques, l'égalité dans les droits familiaux, etc., la violence ne s'est jamais arrêtée. Même avec, quand on a gagné le combat contre la contraception, l'IVG, la criminalisation du viol aussi. Mais il existe en fait maintenant, c'est pour ça qu'il y a cette espèce de prise de conscience, comme tu disais avec MeToo, il y a ce qu'on appelle la rupture d'évidence, et qui en fait, c'est quand l'évidence cesse de l'être, ce n'est plus évident pour les femmes d'être dominées par les hommes. Donc il y a une rupture d'évidence, et ça s'appelle le début de la révolution. Et donc il y a des mouvements comme MeToo, en fait, sont l'exemple, la face visible de cette révolution qui est en marche depuis les années 70. Et donc pour terminer cette chronique, on va se faire un petit chant du MLF. Parce qu'effectivement, la révolution est en marche.
Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entrailles.
Laissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes, ensemble, révoltons-nous. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 le temps de la colère. Découvrons